Les sources utilisées dans ce livre. Inégalité et idéologie. Ce livre s'appuie sur deux grands types de sources historiques. D'une part, des sources permettant de mesurer l'évolution des inégalités dans une perspective historique, comparative et multidimensionnelle. Inégalités de revenus, salaires, patrimoine, éducation, genre, âge, profession, origine, religion, race, statut, etc. Et d'autre part, des sources permettant d'étudier les transformations des idéologies, des croyances politiques et des représentations des inégalités et des institutions économiques, sociales et politiques qui les structurent. Pour ce qui concerne les inégalités, je vais notamment m'appuyer sur les données rassemblées dans le cadre de la World Inequality Database, WID.world. Ce projet repose sur les efforts combinés de plus de 100 chercheurs, couvrant désormais plus de 80 pays sur tous les continents. Il rassemble la plus vaste base de données actuellement disponible sur l'évolution historique des inégalités de revenus et de patrimoine, aussi bien entre pays qu'à l'intérieur des pays. Le projet WID.world est issu de travaux historiques lancés avec Anthony Atkinson et Emmanuel Saez au début des années 2000, et qui visaient eux-mêmes à généraliser et à étendre des recherches entamées dans les années 1950 et 1970 par Simon Kuznets, Atkinson et Alan Harrison. Ces travaux reposent sur une confrontation systématique des différentes sources disponibles, et en particulier les comptes nationaux, les données d'enquête et les données fiscales et successorales qui permettent généralement de remonter à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, période où furent créés des systèmes d'impôts progressifs sur les revenus et les successions dans de nombreux pays. Ce qui a également permis de donner à voir plus de choses sur les richesses. L'impôt est toujours un moyen de produire des catégories et des connaissances, et pas seulement des recettes fiscales et du mécontentement. On peut même, pour certains pays, débuter à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, en particulier dans le cas de la France, où la Révolution conduisit à la mise en place précoce d'un système unifié d'enregistrement des propriétés et de leur transmission. Ces recherches ont permis de mettre dans une perspective historique longue le phénomène de remontée des inégalités observées depuis les années 1980-1990, et ainsi de contribuer à nourrir le débat public mondial sur ces questions, comme en témoigne l'intérêt suscité par « Le Capital au XXIe siècle », publié en 2013, ainsi que par le rapport sur les inégalités mondiales publié en 2018. Cet intérêt montre également le besoin profond de démocratisation des connaissances économiques et de participation politique. Dans des sociétés de plus en plus éduquées et informées, il devient de moins en moins acceptable d'abandonner les questions économiques et financières à un petit groupe d'experts aux compétences douteuses. Et il est bien naturel que des citoyens de plus en plus nombreux souhaitent se faire leur propre opinion et s'engager en conséquence. L'économie est au cœur de la politique. Elle ne se délègue pas plus que la démocratie. Les données disponibles sur les inégalités restent malheureusement incomplètes, du fait notamment du manque de transparence économique et financière et des difficultés d'accès aux sources fiscales, administratives et bancaires dans de trop nombreux pays. Grâce au soutien de centaines de citoyens, chercheurs et journalistes, nous avons pu, au cours de ces dernières années, obtenir l'accès à de nouvelles sources que les gouvernements en place se refusaient jusqu'ici à ouvrir. Par exemple, au Brésil et en Inde, en Afrique du Sud et en Tunisie, au Liban et en Côte d'Ivoire, en Corée et à Taïwan, en Pologne et en Hongrie, et d'une façon malheureusement plus limitée en Chine et en Russie. Parmi les multiples limitations de mon livre de 2013, l'une des plus évidentes est son occidentalocentrisme, dans le sens où il accorde une place excessive à l'expérience historique des pays riches, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, Japon. Cela découlait en partie des difficultés d'accès à des sources historiques adéquates pour les autres pays. Les données inédites, maintenant disponibles dans WID.world, me permettent dans ce nouvel ouvrage de sortir du cadre occidental et de développer une analyse plus riche de la diversité des régimes inégalitaires et des trajectoires et bifurcations possibles. Malgré ces progrès, il me faut cependant souligner que les données disponibles demeurent très insuffisantes, aussi bien d'ailleurs dans les pays riches que dans les pays pauvres. J'ai également rassemblé dans le cadre de ce livre de multiples autres sources et matériaux portant sur des périodes, des pays ou des aspects, des inégalités mal couverts dans WID.World. Par exemple, sur les sociétés pré-industrielles ou les sociétés coloniales, ainsi que sur les inégalités de statut, de profession, d'éducation, de genre, de race ou de religion. En ce qui concerne les idéologies, les sources utilisées seront naturellement très diverses. Je solliciterai bien sûr les sources classiques, débats parlementaires, discours politiques, programmes et plateformes électorales des partis. J'utiliserai les textes des théoriciens comme ceux des acteurs politiques, car les uns et les autres jouent un rôle important dans l'histoire. Ils nous apportent des éclairages complémentaires sur les schémas de justification de l'inégalité qui ont eu cours aux différentes époques. Cela vaut par exemple pour les textes d'évêques du début du XIe siècle justifiant l'organisation trifonctionnelle de la société en trois classes cléricales, guerrières et laborieuses, aussi bien que pour l'influent traité néo-propriétariste et semi-dictatorial publié au début des années 1980 par Friedrich Hayek, Law, Legislation and Liberty, en passant par les écrits consacrés par le sénateur démocrate de Caroline du Sud et vice-président des États-Unis, John Calhoun, à la justification de l'esclavage comme bien positif, slavery as a positive good, dans les années 1830. Cela vaut également pour des textes de Xi Jinping et du Global Times sur le rêve néo-communiste chinois, qui sont tout aussi révélateurs que les tweets de Donald Trump ou les articles du Wall Street Journal ou du Financial Times sur la vision hyper-capitaliste états-unienne et anglo-saxonne. Toutes ces idéologies doivent être prises au sérieux, non seulement car elles ont un impact considérable sur le cours des choses, mais aussi parce qu'elles témoignent toutes à leur façon de tentatives plus ou moins convaincantes de donner du sens à des réalités sociales complexes. Or, les êtres humains ne peuvent faire autrement que de tenter de donner du sens aux sociétés dans lesquelles ils vivent, aussi inégales et injustes soient-elles. Je pars du principe qu'il y a toujours des choses à apprendre dans l'expression de ces différents schémas idéologiques et que seul un examen de l'ensemble des discours et trajectoires historiques peut permettre de dégager des leçons utiles pour la suite. J'aurai également recours à la littérature qui constitue souvent l'une des meilleures sources capables d'illustrer les transformations des représentations des inégalités. Dans Le Capital au XXIe siècle, j'avais notamment utilisé le roman classique européen du XIXe siècle, en particulier les textes de Balzac ou de Jane Austen, qui nous offrent un point de vue irremplaçable sur les sociétés de propriétaires qui s'épanouissent en France et au Royaume-Uni dans les années 1790-1830. Les deux romanciers ont une connaissance intime de la hiérarchie de la propriété en vigueur autour d'eux. Ils en connaissent mieux que personne les ressorts cachés et les frontières secrètes, les conséquences implacables sur la vie de ces femmes et de ces hommes, leurs stratégies de rencontre et d'alliance, leurs espoirs et leurs malheurs. Ils analysent la structure profonde des inégalités, leurs justifications, leurs implications dans la vie de chacun, avec une vérité et une puissance évocatrice qu'aucun discours politique, qu'aucun texte de science sociale ne saurait égaler. Nous verrons que cette capacité unique de la littérature à évoquer les rapports de pouvoir et de domination entre groupes sociaux, à ausculter les perceptions des inégalités telles qu'elles sont ressenties par les uns et les autres, se retrouve dans toutes les sociétés et peut nous apporter des témoignages précieux sur des régimes inégalitaires très divers. Dans « La volonté et la fortune », magnifique fresque publiée en 2008, quelques années avant sa mort, Carlos Fuentes dessine un tableau édifiant du capitalisme mexicain et des violences sociales qui traversent son pays. Dans « Le monde des hommes », publié en 1980, Pramoedia Anantatur nous donne à voir le fonctionnement du régime colonial et inégalitaire néerlandais dans l'Indonésie de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, avec une brutalité et une vérité qu'aucune autre source ne peut atteindre. Dans Americana, Chimamanda Ngozi Adichie nous offre en 2013 un regard fier et ironique sur les trajectoires migratoires d'Ifemelu et d'Obinze, du Nigeria aux États-Unis et en Europe, et par là même, un point de vue unique sur l'une des dimensions les plus fortes du régime inégalitaire actuel. Pour étudier les idéologies et leurs transformations, ce livre s'appuiera également sur une exploitation systématique et originale des enquêtes post-électorales réalisées dans la plupart des pays où des élections se sont tenues depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré toutes leurs limites, ces enquêtes fournissent un observatoire incomparable sur la structure et les dimensions du conflit politique, idéologique et électoral des années 1940-1950 jusqu'à la fin des années 2010, non seulement dans la quasi-totalité des pays occidentaux, et en particulier en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni, pays sur lesquels je me pencherai plus particulièrement, mais également dans un grand nombre d'autres pays que j'examinerai également, en particulier l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud. L'une des limites les plus importantes de mon livre de 2013, outre son caractère occidentalo-centré, est sa tendance à traiter les évolutions politico-idéologiques autour des inégalités et de la redistribution comme une sorte de boîte noire. J'y formule certes quelques hypothèses à leur sujet, par exemple sur les transformations des représentations et attitudes politiques face aux inégalités et à la propriété privée induites au XXe siècle par les guerres mondiales, les crises économiques et le défi communiste, mais sans véritablement aborder de front la question de l'évolution des idéologies inégalitaires. C'est ce que je tente maintenant de faire de façon beaucoup plus explicite dans ce nouvel ouvrage, en replaçant cette question dans une perspective temporelle et spatiale plus vaste, et en m'appuyant notamment sur ces enquêtes post-électorales, ainsi que sur les autres sources permettant d'analyser l'évolution des idéologies. Le progrès humain, le retour des inégalités, la diversité du monde. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le progrès humain existe, mais il est fragile. Et il peut à tout moment se fracasser sur les dérives inégalitaires et identitaires du monde. Le progrès humain existe. Il suffit pour s'en convaincre d'observer l'évolution de la santé et de l'éducation dans le monde au cours des deux derniers siècles. Voir graphique 0.1. L'espérance de vie à la naissance est passée d'environ 26 ans dans le monde en moyenne en 1820 à 72 ans en 2020. Au début du 19e siècle, la mortalité infantile frappait autour de 20% des nouveau-nés de la planète au cours de leur première année, contre moins de 1% aujourd'hui. Si l'on se concentre sur les personnes atteignant l'âge de 1 an, l'espérance de vie à la naissance est passée d'environ 32 ans en 1820 à 73 ans en 2020. On pourrait multiplier les indicateurs. La probabilité pour un nouveau-né d'atteindre l'âge de 10 ans, celle pour un adulte d'atteindre l'âge de 60 ans, celle pour une personne âgée de passer 5 ou 10 ans de retraite en bonne santé. Sur tous ces indicateurs, l'amélioration de long terme est impressionnante. On peut certes trouver des pays et des époques où l'espérance de vie décline, y compris en temps de paix, comme l'Union soviétique dans les années 1970 ou les États-Unis dans les années 2010, ce qui en général n'est pas bon signe pour les régimes concernés. Mais sur la longue durée, la tendance à l'amélioration est incontestable dans toutes les parties du monde, quelles que soient par ailleurs les limites des sources démographiques disponibles. L'humanité vit aujourd'hui en meilleure santé qu'elle n'a jamais vécu. Elle a également davantage accès à l'éducation et à la culture qu'elle ne l'a jamais eue. L'UNESCO n'existait pas au début du 19e siècle pour définir l'alphabétisation comme elle le fait depuis 1958, c'est-à-dire la capacité d'une personne à lire et écrire, en le comprenant, un énoncé simple et bref se rapportant à sa vie quotidienne. Les informations recueillies dans de multiples enquêtes et recensements permettent toutefois d'estimer qu'à peine 10% de la population mondiale âgée de plus de 15 ans était alphabétisée au début du 19e siècle, contre plus de 85% aujourd'hui. Là encore, des indicateurs plus fins, comme le nombre moyen d'années de scolarisation qui serait passé d'à peine une année il y a deux siècles à plus de 8 années dans le monde aujourd'hui et plus de 12 années dans les pays les plus avancés, confirmerait le diagnostic. À l'époque d'Austin et de Balzac, moins de 10% de la population mondiale accédait à l'école primaire. À celle d'Adichie et de Fuentes, plus de la moitié des jeunes générations des pays riches accèdent à l'université. Ce qui était depuis toujours un privilège de classe devient ouvert à la majorité. Pour prendre conscience de l'ampleur des transformations en jeu, il convient également de rappeler que la population humaine, tout comme le revenu moyen, ont été multipliés par plus de 10 depuis le XVIIIe siècle. La première est passée d'environ 600 millions en 1700 à plus de 7 milliards en 2020, alors que le second, autant que l'on puisse le mesurer, est passé d'un pouvoir d'achat moyen, exprimé en euros de 2020, d'à peine 80 euros par mois et par habitant de la planète, autour de 1700, à environ 1000 euros par mois en 2020. Voir graphique 0.2. Il n'est pas certain toutefois que ces progressions quantitatives considérables, dont il est utile de rappeler qu'elles correspondent toutes deux à des rythmes de croissance annuelle moyenne d'à peine 0,8% cumulés, il est vrai sur plus de 3 siècles, preuve s'il en est qu'il n'est peut-être pas indispensable de viser une croissance de 5% par an pour atteindre le bonheur terrestre, représentent des progrès en un sens aussi incontestable que ceux réalisés en termes de santé et d'éducation. Dans les deux cas, l'interprétation de ces évolutions est ambiguë et ouvre des débats complexes pour l'avenir. La croissance démographique reflète certes pour partie la chute de la mortalité infantile et le fait qu'un nombre croissant de parents a pu grandir avec des enfants en vie, ce qui n'est pas rien. Il reste qu'une telle hausse de la population, si elle se poursuivait au même rythme, nous conduirait à plus de 70 milliards d'humains dans 3 siècles, ce qui ne semble ni souhaitable ni supportable par la planète. La croissance du revenu moyen reflète pour partie une amélioration bien réelle des conditions de vie. Les 3/4 des habitants de la planète vivaient proche du seuil de subsistance au XVIIIe siècle, contre moins d'un 1/5 aujourd'hui. Ainsi que des possibilités nouvelles de voyage, de loisirs, de rencontres et d'émancipation. Il reste que les comptes nationaux mobilisés ici pour décrire l'évolution de long terme du revenu moyen, et qui depuis leur invention à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle au Royaume-Uni et en France, tentent de mesurer le revenu national, le produit intérieur brut et parfois le capital national des pays, posent de multiples problèmes. Outre leur focalisation sur les moyennes et les agrégats et leur absence totale de prise en compte des inégalités, ils ne commencent que trop lentement à intégrer la question de la soutenabilité et du capital humain et naturel. Par ailleurs, leur capacité à résumer en un indicateur unique les transformations multidimensionnelles des conditions de vie et du pouvoir d'achat sur des périodes aussi longues ne doit pas être surestimée. Rappelons que le revenu national évoqué ici, et auquel j'aurai fréquemment recours dans ce livre, est défini comme le produit intérieur brut, diminué de la dépréciation du capital, qui représente en pratique autour de 10-15% du produit intérieur brut, augmenté ou diminué du revenu net perçu de l'étranger, terme qui peut être positif ou négatif suivant les pays, mais qui s'annule au niveau mondial. De façon générale, les réels progrès réalisés en termes de santé, d'éducation et de pouvoir d'achat masquent d'immenses inégalités et fragilités. En 2018, le taux de mortalité infantile avant 1 an était inférieur à 0,1% dans les pays européens, nord-américains et asiatiques les plus riches, mais ils atteignent quasiment 10% dans les pays africains les plus pauvres. Le revenu moyen mondial atteignait certes 1000 euros par mois et par habitant, mais il était d'à peine 100-200 euros par mois dans les pays les plus pauvres et dépassait les 3000-4000 euros par mois dans les pays les plus riches, voire davantage dans quelques micro-paradis fiscaux que d'aucuns soupçonnent, non sans raison, de voler le reste de la planète, quand il ne s'agit pas de pays dont la prospérité s'appuie sur les émissions carbone et le réchauffement à venir. Certains progrès ont bien eu lieu, mais cela ne change rien au fait qu'il est toujours possible de mieux faire, ou en tout état de cause, de s'interroger sérieusement à ce sujet, plutôt que de se complaire dans un sentiment de béatitude face au succès du monde. Surtout, ce progrès humain moyen incontestable, si l'on compare les conditions de vie en vigueur au XVIIIe siècle et au début du XXIe, ne doit pas faire oublier que cette évolution de très long terme s'est accompagné de phases terribles de régression inégalitaire et civilisationnelle. Les Lumières euro-américaines et la Révolution industrielle se sont appuyés sur des systèmes extrêmement violents de domination propriétariste, esclavagiste et coloniale, qui ont pris une ampleur historique sans précédent au cours des 18e, 19e et 20e siècles, avant que les puissances européennes sombrent elles-mêmes dans une phase d'autodestruction génocidaire entre 1914 et 1945. Ces mêmes puissances se sont ensuite vues imposer les décolonisations dans les années 1950-1960, au moment où les autorités états-uniennes finissaient par étendre les droits civiques aux descendants d'esclaves. Les craintes d'apocalypse atomique liées au conflit communisme-capitalisme étaient à peine oubliées après l'effondrement soviétique de 1989-1991 et l'apartheid sud-africain était à peine aboli en 1991-1994, que le monde entrait, à partir des années 2000-2010, dans une nouvelle torpeur, celle du réchauffement climatique et d'une tendance générale au repli identitaire et xénophobe, tout cela dans un contexte de remontée inédite des inégalités socio-économiques à l'intérieur des pays depuis les années 1980-1990, dopée par une idéologie néo-propriétariste particulièrement radicale. Prétendre que tous ces épisodes observés depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXIe siècle étaient nécessaires et indispensables pour que le progrès humain se réalise n'aurait guère de sens. D'autres trajectoires et régimes inégalitaires étaient possibles. D'autres trajectoires et d'autres régimes plus égalitaires et plus justes sont toujours possibles. S'il y a bien une leçon à retenir de l'histoire mondiale des trois derniers siècles, c'est que le progrès humain n'est pas linéaire et que l'on aurait bien tort de faire l'hypothèse que tout ira toujours pour le mieux et que la libre compétition des puissances étatiques et des acteurs économiques suffirait à nous conduire comme par miracle à l'harmonie sociale et universelle. Le progrès humain existe, mais il est un combat et il doit avant tout s'appuyer sur une analyse raisonnée des évolutions historiques passées avec ce qu'elles comportent de positif et de négatifs.